Durant les deux dernières conférences sur le Notre Père, nous avons contemplé le mystère du Père. Aujourd'hui, nous allons aborder la première demande qui concerne nos nécessités matérielles et spirituelles. Comme dit le catéchisme, ce sont des chemins vers le Père. Elles offrent notre misère et sa grâce. L'abîme appelle l'abîme. Alors ce soir, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Avant toute autre chose, sachez que le Père désire que nous lui demandions la nourriture. Il veut être considéré d'abord comme celui qui, donnant cette nourriture, pourvoit ainsi à notre vie. Et il entend lui-même être ce pain quotidien. Je suis le pain de vie, celui qui me mange vivra éternellement. Cette demande du Notre Père est donc pour nous une invitation pressante à nous tourner à nouveau vers Dieu comme vers un Père. Entre la paternité et la nourriture, il y a un lien étroit. Si le Père est celui qui donne la vie, c'est aussi celui sur qui l'on peut compter pour recevoir la nourriture indispensable pour vivre. Quelle audace avons-nous en disant « donne-nous ». Mais nous voyons en lui un Père et nous attendons de lui que sur tous les plans, il subvienne à notre vie. Et même si nous sommes éloignés de lui comme le fils prodigue, dès notre retour, le Père tue le veau gras pour faire la fête. Alors avec confiance, n'hésitons pas à nous adresser à lui. Il n'attend que cela. Donne-nous. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu donnait la manne à son peuple ainsi que sa parole. Car l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Père leur a donné aussi la sagesse comme nourriture. Le Christ est donc dans la ligne de toute la tradition vétérotestamentaire, non seulement lorsqu'il se donne comme la nourriture ou l'eau vive, lorsqu'il nous invitera à nous nourrir aussi de son enseignement, mais encore lorsqu'il mettra son amour à nourrir la multitude qui le suit en Galilée. Le discours sur le pain de vie commence d'ailleurs par une multiplication des pains matériels, prouvant bien que Dieu est ce Père qui donne aux hommes le pain dont ils ont besoin. Et puis ensuite le Christ passe du matériel au spirituel. Je suis le pain de vie. Celui qui mange ce pain vivra par moi. Pain matériel, quotidien, pain de vie, parole de Dieu, sagesse, pain de l'intelligence, volonté de Dieu, nourriture des croyants, qui est dispensé par notre Dieu, qui est paternel et provident. Voilà des notions qui toutes parlent de l'idée de nourriture que Dieu donne à ses créatures. Alors, demandons à Dieu le pain nécessaire à notre corps. Et il ne s'agit ici ni d'une simple aumône, ni même de charité, mais d'une nourriture quotidienne qui fortifie notre corps pour qu'il devienne un instrument plus efficace au service de notre âme, qui elle-même est au service de Dieu. Dans l'Évangile, la nourriture n'est jamais une fin en elle-même. Elle est toujours liée à un don plus élevé ou donner en fonction d'une fin plus haute. Il est important de se nourrir pour grandir. Mais il faut éviter de sombrer dans l'excès. J'imagine que vous avez entendu vos parents vous dire « Ne te bourre pas de pain, tu ne mangeras plus. » En vous disant cela, naturellement, je ne veux pas vous interdire à faire de temps en temps un bon repas. Au contraire. Surtout si en plus il est partagé avec des amis. Le repas, c'est un moment de convivialité. C'est pas pour rien que le Christ allait régulièrement chez des amis pour déjeuner ou pour dîner. Mais dans cette demande du Notre Père, le Christ veut surtout nous parler de la manne, de la fidélité à l'Alliance. La fidélité aux responsabilités, fidélité même aux petites choses. Il s'agit de la manne des rencontres, la manne de l'amitié, la manne des regards, des sourires qui disent « je t'aime » et qui réchauffent le cœur. La nourriture essentielle est la fidélité aux mille délicatesses du quotidien. À l'effort aussi, pour aimer celui qui est insupportable, pour aimer même l'ennemi et lui pardonner. Le quotidien ne nous nourrit que quand on a découvert la sagesse de l'instant présent et la présence de Dieu dans les petites choses. Même au fond des casseroles. Ça, je dis ça pour les maîtresses de maison. C'est cette nourriture que nous devons demander. Elle est essentielle pour que nos cœurs soient constamment éveillés à la volonté du Père et à l'amour du prochain. N'oublions pas non plus le pain de la parole. La parole humaine, c'est un moyen puissant de faire jaillir une nouvelle espérance. C'est une nourriture qui redonne force et énergie. Ah, naturellement, pas n'importe quelle parole. Il faut que ce soit une parole qui touche le cœur. Une parole qui révèle la foi, l'espérance et l'amour. La parole est une flamme qui transmet la chaleur, qui permet à la vie de fleurir, voire même de tenir. Il me souvient un facteur que j'avais rencontré lors d'une récollection que je prêchais et qui me demandait s'il était sur un chemin de sainteté et il m'expliquait qu'il n'hésitait pas apporter directement le courrier à certains locataires au sixième étage où il n'y avait pas d'ascenseur, mais il savait que ces personnes étaient seules et que ce serait la rencontre de la journée. Il leur disait une parole, la seule sans doute que ces personnes allaient entendre. Mais quel beau modèle de sainteté! Il faut peu de choses, finalement, pour être un saint. Ça aussi, c'est pour vous encourager un peu. Cette parole qui nourrit vient de celui qui laisse Dieu parler à travers ses lèvres. C'est dire que nous avons à recevoir aussi cette parole de Dieu. Elle doit jaillir du silence et de la paix et conduire vers le silence et la paix. Que de paroles inutiles, que de paroles pour ne rien dire, que de paroles aussi qui blessent et parfois même qui tuent. Mais il y a aussi des paroles qui font revivre, des paroles qui ravivent l'espérance. Dieu se sert de sa parole vivante pour donner la vie. Et ceux qui annoncent la parole doivent se rappeler qu'ils ne sont pas là pour donner de bonnes idées. Non, ils sont là pour communiquer la vie et bien révéler le dessein d'amour du Père. La parole peut devenir un sacrement qui apporte alors la lumière et la présence du Christ. La parole de Dieu, les paroles de l'Évangile sont un pain de vie qu'il faut manger chaque jour parce qu'elles nous conduisent à l'essentiel. Ainsi, demander à Dieu le pain de ce jour est un moyen de nous rappeler à quelle maison nous sommes attachés, de quelle famille nous faisons partie, de quel père nous dépendons. Exprimer cette demande, c'est affirmer notre dépendance vis-à-vis de Dieu. C'est se souvenir de sa providence paternelle. Oui, mais nous avons souvent peur de manquer. Et l'on aime stocker nos provisions, quitte d'ailleurs à gâcher la nourriture, alors que tant de gens manquent de pain. Quel beau geste de bénir le pain avant de le rompre. Le Père veut nous faire comprendre que tout en étant le fruit de notre travail, notre pain est aussi un don qui vient de lui. C'est à lui que nous le devons. C'est donc aussi sur lui que nous devons compter pour nous l'assurer. Être disciple du Christ, c'est vivre cet équilibre entre l'effort personnel, le travail, et la confiance en Dieu. Voilà peut-être la vraie pauvreté du cœur, cette volonté de ne jamais vouloir faire de réserve ou de ne se suffire à soi-même sur aucun plan, pas plus matériel que spirituel. Il ne s'agit pas non plus d'être la cigale de la fable de La Fontaine. Nous sommes des êtres responsables. Et le Seigneur ne nous demande pas de prendre des risques qui mettraient en péril notre famille ou tout simplement nous-mêmes. Non, la question la plus fondamentale est ma relation à la nourriture, mais aussi ma confiance et mon abandon dans la vie spirituelle. L'année prochaine, je vous ferai une série de conférences sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais dès maintenant, il nous faut évoquer ce beau chemin, cette enfance spirituelle. Écoutez-la, il faut rester petit enfant devant Dieu. Et rester petit, c'est reconnaître son néant. Attendre tout du bon Dieu comme un petit enfant attend tout de son père. C'est ne s'inquiéter de rien, ne pas gagner de fortune, rester petite. C'est ne point s'attribuer à soi-même les vertus que l'on pratique, se croyant capable de quelque chose. Mais reconnaître que le bon Dieu a posé des trésors dans la main de son petit enfant pour qu'il s'en serve quand il en aura besoin. Mais c'est toujours le trésor du bon Dieu. Quel beau chemin d'humilité. Ainsi, il s'agit d'envisager notre tâche dans les limites de l'aujourd'hui. C'est ainsi que l'on demeure ouvert à l'action de Dieu. Celui qui fait des plans et qui poursuit la réalisation d'une œuvre personnelle finit toujours par en être prisonnier. Pour chercher le royaume de Dieu, il ne faut pas être accaparé par le souci d'établir déjà d'abord le nôtre. En revanche, si nous cherchons d'abord le royaume, c'est-à-dire si chaque jour nous mettons à l'écoute de Dieu et nous nous offrons à lui pour qu'il nous fasse entrer dans son projet qu'il a pour nous, alors nous pouvons être sûrs qu'il va nous rompre notre pain. Là encore, il ne s'agit pas d'attendre que tous ces projets tombent du ciel. Je rappelle que la paresse n'est pas une vertu chrétienne. Non, il s'agit plutôt de confier nos projets au Seigneur et de prendre le temps de s'asseoir pour discerner. Ainsi que de jeunes devraient faire une retraite avant de s'engager dans un cycle d'études, se poser la question, est-ce vraiment mon désir? Est-ce mon choix? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Dans notre monde de compétition, on se laisse embarquer dans telle filière sans trop réfléchir au lendemain. Et que de jeunes ensuite sont obligés de se réorienter car ce métier non choisi finalement ne leur plaît pas. Mais est-ce qu'ils ont pris le temps de discerner? Il ne s'agit pas non plus d'attendre de Dieu qu'il nous nourrisse à ne rien faire, mais bien de considérer Dieu comme notre maître et de nous mettre à son service. Allez vous aussi à ma vigne et vous aurez un salaire qui n'est pas seulement d'ailleurs le pain quotidien. C'est une participation aux bénéfices surnaturels, c'est-à-dire une participation à la vie du maître. Nous sommes non seulement ses ouvriers, mais aussi ses enfants. Ce travail ne peut pas être séparé de cette intimité avec le Seigneur. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, le reste vous sera donné par surcroît. De cette intimité avec le Seigneur naissent la confiance et l'abandon à la providence divine. Il y a aussi une autre dimension à ne pas négliger. En demandant le pain quotidien pour nous-mêmes, nous le demandons aussi pour tous ceux qui ne mangent pas. Nous, enfants de Dieu, nous devons nous préoccuper d'être pour nos frères les intendants de cette providence. Je souhaite revenir un peu sur la dimension spirituelle de cette demande du Pater. Travailler, non pour la nourriture périssable, mais pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que vous donne le Fils de l'homme. À la suite du Christ, la tradition a été unanime à donner au mot « pain » cette signification spirituelle, c'est-à-dire finalement de se référer à l'Eucharistie. Je cite Tertullien, père latin du IIIe siècle, « En demandant notre pain de chaque jour, nous demandons à vivre sans cesse dans le Christ, à nous identifier avec son corps. » Saint Ambroise qui a profondément marqué Saint Augustin, puisque c'est lui, en prêchant à Milan, a touché finalement le cœur de Saint Augustin, écrit dans son commentaire du Pater, « Ce pain que nous donne le Christ n'est pas celui qui entre dans notre corps, mais le pain de la vie éternelle qui nourrit la substance de notre âme. Si tu reçois ce pain chaque jour, dit Saint Ambroise, chaque jour pour toi est aujourd'hui. » Et puis, il y a ce beau passage de Saint Augustin, quand tu dis « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », tu le fais en mendiant de Dieu. N'en rougis pas. Le mendiant se tient à la porte du riche et le riche lui-même se tient à la porte du grand vide. Mais ce pain, dit encore Augustin, c'est aussi la parole de Dieu qui nous est distribuée chaque jour. Voilà notre pain quotidien, celui dont vivent non point les corps, mais les âmes. On ne peut pas séparer cette prière du discours sur le pain de vie au chapitre 6 de Saint Jean. « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. » Les trois premières demandes, rappelez-vous, nous ont permis de fixer les yeux vers notre Dieu en son royaume. Nous regardions le Père. Mais maintenant, le Père va répondre à nos demandes en envoyant du ciel le pain vivant qui est son Fils unique, livré pour le salut du monde. Et donc, vous voyez que c'était important de commencer par contempler le Père au ciel pour qu'ensuite, du ciel, puisse venir ce pain vivant. Le Christ est notre nourriture qui nous divinise progressivement. Si toutefois, nous nous laissons transformer par la parole, par le pain de vie, si nous nous laissons manger par lui. Nous retrouvons l'attitude de la Vierge Marie qui se nourrit du Christ. Mais le Christ, il se nourrit plus encore de Marie, jusqu'à transformer la chair de sa mère en sa propre chair. Si le mystère de l'incarnation du Christ au sein de la Vierge est unique, il n'en éclaire pas moins le rôle en nous de ce pain vivant qui prend tout notre être spirituel dans la mesure où nous lui en laissons prendre possession. Comment alors ne pas avoir faim d'un tel pain qui nous unifie? Commentant le rite de communion, saint Augustin explique « On nous dit le corps du Christ. » Et vous répondez « Amen ». Soyez donc les membres du Christ pour que soit vrai votre « Amen ». Soyez donc ce que vous voyez et recevez ce que vous êtes. Il est bon d'entendre ces paroles de ce génie du christianisme qui nous rappelle que notre « Amen » est un engagement. À la fois c'est « oui, je crois » et en même temps j'accepte de devenir ce que je reçois, c'est-à-dire j'accepte de devenir corps du Christ. Comment ne pas terminer par sainte Thérèse d'Avila qui, dans le chemin de la perfection, commente cette demande du Notre Père en disant « je ne puis m'empêcher d'admirer comment cette demande est la seule où il répète les mêmes paroles. Car tout d'abord, il prie pour qu'on nous donne ce pain chaque jour. Puis il ajoute, donnez-le aujourd'hui, Seigneur. C'est comme s'il disait à son Père qu'ayant été une fois livré à la mort pour nous, étant désormais notre Dieu, il ne nous l'enlève pas, mais le laisse nous servir tous les jours jusqu'à la fin des temps. Qu'à cette pensée, mes filles, votre cœur s'attendrisse et s'embrase d'amour pour votre époux. Oui, le Père l'avait promis. Le Fils ne peut pas nous abandonner. Et ce pain quotidien est sa présence, présence intérieure. Puisque le Christ est en votre cœur, présence eucharistique sur l'autel qui devient le lieu de la transfiguration. Le pain que nous demandons est d'abord ce pain de vie, c'est-à-dire cette présence eucharistique que le Fils offre à son père chaque jour. Et Thérèse ajoute alors des conseils pour l'action de grâce après avoir reçu la communion. Je la cite. « Lorsque le Seigneur voit ceux qui vont profiter de sa présence, il se découvre à eux, et bien qu'il ne le voit pas avec les yeux du corps, il a de multiples moyens de se montrer à leur âme par de grands sentiments intérieurs, par différentes voies. Restez avec lui de bon cœur. Ne perdez pas une occasion si favorable de traiter avec lui durant le temps qui suit la communion. C'est le bon moment pour que le Seigneur nous enseigne et que nous l'entendions. Supplions-le de ne pas s'éloigner de nous. » Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que dans la liturgie eucharistique, avant la prière, après la communion, il y a d'abord un temps de silence pour ce cœur à cœur avec le Seigneur. C'est souvent là d'ailleurs que le Seigneur parle et appelle. Il me souvient, préparant la messe présidée par le pape émérite Benoît XVI aux Invalides, ce dernier d'abord avait découvert qu'il y avait 260 000 fidèles, alors qu'au départ on lui avait dit qu'il y en aurait 100 000, et ce dernier m'avait demandé deux temps de silence. Le premier après son homélie, le second après la communion. Et croyez-moi, un silence avec 260 000 personnes, ce n'est pas rien. Là, j'ai vu le Seigneur réellement présent dans tous les cœurs. Et je peux vous dire, parce qu'il l'a partagé avec moi, que le souverain pontife fut lui aussi très ému par ce silence de cette foule. Silence de recueillement, silence témoin de la présence. D'ailleurs, il le reprend dans son dernier livre de confidences. En conclusion, reprenons alors cette parole du Christ. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais alors, demander chaque jour au Père notre pain, c'est s'engager à chercher et à trouver la nourriture la plus adaptée à notre état, le pain qui nous convient le mieux, celui qui fait de la volonté de Dieu son pain quotidien. Il vient, celui-là, à la vérité de son être, et il fraye en lui et chez ses frères la voie de l'amour. Je vous l'ai déjà dit, c'est à travers la parole de Dieu que je discerne sa volonté. L'Eucharistie, chaque jour est une grâce. Mais je sais combien cela devient de plus en plus difficile à cause du manque de prêtres. Toutefois, nous pouvons au moins méditer la liturgie de la parole et se poser la question, Seigneur, qu'attends-tu de moi aujourd'hui? Et nous terminons avec saint Augustin. Vous voyez que je l'aime bien, cité dans le catéchisme de l'Église catholique. L'Eucharistie est notre pain quotidien. Elle nous unit au corps du Sauveur et fait de nous ses membres, afin que nous devenions ce que nous recevons. Ce pain quotidien, il est encore dans les lectures que vous entendez chaque jour à l'Église, dans les hymnes que l'on chante. Tout cela est nécessaire à notre pèlerinage. Oui, comme dit le curé d'Ars, si on se rendait compte de la portée de cette demande du Pater, on en mourrait d'amour. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux que nous avons. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. La semaine prochaine, nous poursuivrons alors le commentaire de ce Notre Père. Merci.